entrée dans la vie active, pensez à préparer votre retraite avec Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les émotions ponctuent nos journées et leur intensité reflète notre tempérament. La colère, la joie ou la tristesse colorent donc ces heures, mais parfois, comme une marée trop puissante, ces émotions provoquent des dégâts. Elles polluent nos relations avec les autres, nous rendent vulnérables à l'excès, nous plongent dans l'embarras, ou pour le colérique qui ne maîtrise pas l'intensité de sa mauvaise humeur dérape et met son entourage en danger. D'où la volonté de réprimer ses envolées, de contenir des torrents de larmes, cette timidité qui fait perdre ses moyens. Certains, à trop s'inquiéter de possibles débordements, perdent en spontanéité. D'autres tentent de développer des stratégies de contrôle. Mais se contenir, est-ce que c'est toujours recommandé? Quelles émotions parasites réfréner? Quels émois vivifiants entretenir? Gérer ces émotions, c'est d'abord définir ce qui relève du bien-être ou de la souffrance, ce qui génère de la satisfaction ou de l'angoisse, ce qui protège, ce qui paralyse. Repérer ces émotions négatives, valoriser nos ressentis agréables pour réussir à rester nous-mêmes avec la sérénité en plus. Gérer ses émotions avec les conseils bienveillants du docteur Marie-Claude Gavard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste à Paris, auteur du livre « Adoption, blessure d'amour » aux éditions Odile Jacob. En deuxième partie d'émission, nous rejoindrons en République démocratique du Congo le docteur Timothée Kamanga, professeur à l'université de Kinshasa, psychologue clinicien, psychothérapeute au département de neurologie du centre neuropsychopathologique de Kinshasa. En fin d'émission, on va retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Et bien sûr, toutes vos questions, le numéro de l'émission, c'est toujours le 33 1 84 22 75 75 et Facebook pour vos messages.
RFI.
Bonjour Angélique. Émotive.
Bonjour Angélique.
Je n'ai pas de problème avec les femmes. Elles me terrorisent, c'est tout.
Je vais vous donner un petit exercice. Vous allez devoir inviter quelqu'un à dîner.
Vous faites quelque chose jeudi soir?
Non, mais par contre,
je vous invite au restaurant.
Moi?
Être seul avec une femme, pour moi, c'est une torture.
Mademoiselle Delange!
Vous allez devoir toucher quelqu'un.
Toucher?
Toucher comment?
J'avais réussi à lui prendre la main.
Je suis désolée, mais on est tous les deux émotifs. On court à la catastrophe, c'est obligé.
La bande-annonce de ce film de Jean-Pierre Améris, Les émotifs anonymes, on y entend les deux personnages principaux incarnés par les comédiens Isabelle Carré et Benoît Poulvorde rivaliser d'émotions, timidité maladive, peur de l'autre, du contact. Un trop-plein qui met en péril une belle histoire d'amour, cette fameuse timidité. Docteur Marie-Claude Gavard, c'est une émotion dont beaucoup de gens aimeraient se débarrasser.
Oui, parce que c'est très invalidant, ça entraîne des inhibitions et ça tire comme un voile gris sur toutes les relations. En fait, la timidité prend sa source dans l'enfance avec un manque de confiance en soi qui est acquis parce que les parents n'ont pas valorisé suffisamment les instituteurs et l'enfant s'est construit avec un manque de confiance en lui qui fait que le regard de l'autre est très angoissant pour lui. Alors que on est beaucoup dans le fantasme, mais l'adulte s'est construit avec l'idée que l'autre va le regarder, va le critiquer, alors qu'il faut bien savoir que l'autre pense à sa propre vie. Et donc, la timidité est quelque chose de très inhibiteur, très très angoissant, et c'est un sentiment qui ne devrait pas exister dans la mesure où il est beaucoup plus basé sur un fantasme que sur une réalité.
Et il y a des moments particuliers, docteur Gavard, où on a besoin de se débarrasser de ses émotions. Par exemple, la timidité, certaines personnes dans leur enfance peuvent la supporter très longtemps. Et puis plus tard, par exemple, au travail, ça devient là carrément insupportable.
Absolument. Et en fait, c'est très important pour toutes les émotions d'arriver à voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre enfance ? Qu'est-ce qui est réveillé lorsque l'on ressent une émotion? Lorsque vous évoquez le travail, c'est parce que le boss, par exemple, impressionne et en fait, il rappelle l'attitude des parents qui ont grondé lorsqu'il y avait une mauvaise note. Or, il faut bien savoir que si on a un poste professionnel, c'est qu'on le mérite. La personne qui a engagé ne s'est pas trompée. Donc, il faut vraiment savoir que on mérite ce que l'on fait, on est capable. Et quand il y a la petite voix négative qui dit « ah ben je suis nul, je suis trop nul » et donc, la personne ne supporte aucune critique, elle se dévalorise constamment. Savoir que ça, c'est un acquis qui n'est pas de la réalité.
Est-ce que l'essentiel, finalement, de ces émotions repose sur le jugement de l'autre?
Alors, peut-être pas l'essentiel, parce qu'il y a toutes les émotions positives et tout ça, mais en tout état de cause, là, lorsque vous parlez de timidité, c'est la peur du jugement de l'autre. Or, se rappeler qu'on n'est pas si important pour l'autre, c'est une des clés.
Tout ne dépend pas d'un échange d'une seconde et la tension peut redescendre justement pour que l'échange soit normalisé, plus calme, plus doux plus serein.
Tout à fait. Et lorsque par exemple quelqu'un doit intervenir en public, la personne doit savoir que les personnes qui viennent pour ce qu'elle va dire, c'est-à-dire ils viennent pour s'enrichir d'une connaissance et en aucun cas pour critiquer, même si quelqu'un bafouille, même si quelqu'un est mal habillé, mal coiffé, tout ça, ils ne viennent pas pour ça. C'est-à-dire que souvent le timide devrait se dire qu'il a moins d'importance aux yeux de l'autre que ce qu'il imagine, ce qui lui donnerait un sentiment de liberté.
Alors, des émotions, hein, il y en a des dizaines, des centaines, comme des couleurs, on peut dire même à l'infini. Comment savoir ce qui est bon pour nous au niveau émotionnel et ce qui est mauvais pour nous, docteur Marie-Claude Gavard?
Alors, c'est au niveau de notre ressenti. Quand nous nous sentons mal, c'est important de se demander pourquoi. Lorsque nous avons un comportement inapproprié, quelquefois qu'on le peut regretter, là on voit qu'on est débordé, dépassé par nos émotions. Et savoir, lorsque nous sommes en difficulté relationnelle avec l'autre, essayer de trouver pourquoi ça se passe comme ça.
Alors, le stress, hein, on parle souvent du stress, notamment dans Priorité Santé. On dit prévention santé, c'est d'abord se débarrasser de ce stress qui monte en nous et qui nous fait finalement mal. C'est quoi exactement, docteur Marie-Claude Gavard? C'est une émotion ou c'est le résultat d'une émotion, le
Alors,
stress?
Alors, on peut dire que c'est les deux choses, hein, parce qu'il y a du stress positif. Lorsqu'un étudiant, par exemple, va passer un examen, c'est bien qu'il soit un peu stressé pour réviser suffisamment tôt et pour avoir une hypermnésie, c'est-à-dire mémoriser, hein, parce qu'il y a une angoisse, il y a l'intérêt de l'examen, de la réussite. Donc, il y a du stress positif. Quand on traverse une route à forte circulation, notre stress, c'est un message de notre cerveau reptilien qui est le cerveau de survie pour nous dire, bon, attention. Donc, il y a du bon stress. Le mauvais stress, évidemment, paralyse, fait perdre ses moyens, est un grand consommateur d'énergie. Et là, nous avons absolument intérêt à se poser la question, d'où vient ce stress? Est-il justifié? Le plus souvent, quand on en souffre, c'est qu'il ne l'est pas forcément.
Quand on dit que une émotion fait mal, est-ce que cette émotion en elle-même fait mal ou c'est parce que c'est un processus chimique dans le corps qui finalement peut nous faire, docteur Marie-Claude Gavard, nous tordre de douleur ou carrément ressentir parfois comme une douleur irradiante quand on a par exemple l'annonce d'un décès dans son entourage? Ça nous frappe. Comment on explique cela, qu'une émotion nous frappe physiquement?
Alors, il y a les deux, parce qu'il y a l'émotionnel qui est effectivement les réactions biochimiques de notre corps. Donc, il y a effectivement les deux.
Alors, des personnes, j'en ai jamais rencontré, mais j'ai vu ça dans un livre, sont privées d'émotions, blanches d'émotions. Comment est-ce qu'on peut expliquer une chose pareille?
Alors, il peut y avoir une protection qui est mise en place, ce qui fait un petit peu penser au déni de certaines situations. Donc, la personne est vraiment privée de son côté émotionnel. Alors, il faut voir si c'est suite à un événement tragique ou une enfance très douloureuse. Bon, ce sont des cas quand même rares. Ou alors si c'est parallèle à une maladie physique. Donc bon, mais ça, ce sont des cas très rares.
C'est très rare. Oui, alors, oui. On va donner la parole aux auditeurs de l'émission. Docteur Marie-Claude Gavard, vous restez avec nous dans quelques instants. On va joindre une première auditrice.
Priorité Santé sur RFI.
Et on va l'entendre, hein, les auditeurs et les auditrices de Priorité Santé sont loin d'être dépourvus d'émotions. La première d'entre elles, c'est Emmanuela. Bonjour Emmanuela.
Bonjour.
Vous êtes en ligne du Gabon, de Libreville, on vous écoute.
Oui, de Libreville. Donc justement, vous avez posé la question, je voulais savoir comment faire pour se maîtriser lorsqu'on est impulsif.
Impulsif, c'est-à-dire par exemple, comment se manifestent justement ces impulsions chez vous? C'est quoi? C'est de la colère?
Voilà, de la colère quand quelqu'un fait quelque chose qui ne vous plaît pas ou à votre humble avis, surtout sur le domaine professionnel, vous avez déjà expliqué ou qui semble en fait évident et la personne fait le contraire. Bon, sur le coup, ça vous énerve, vous vous emportez, vous criez un peu et puis ça frustre en fait la personne qui est en face de vous.
Et là, vous dites vous, mais en fait, vous parlez de vous-même. Est-ce qu'en face de vous, justement, ces personnes contre qui vous vous énervez vous font le reproche, justement, de ces emportements?
Voilà, c'est ça.
Et ça vous cause des problèmes, par exemple, dans votre travail?
Bon, oui, ça me pose des problèmes, parce qu'après, mes collaborateurs sont un peu frustrés, ils disent « je parle mal ». Bon, moi, après aussi, en y réfléchissant, ça me dérange aussi un peu d'être en face des personnes qui ne sont pas heureux en fait de travailler avec vous.
Est-ce que ce sont toujours les mêmes éléments qui déclenchent chez vous cette colère?
Les mêmes éléments.
Par exemple un retard ou par exemple une question à laquelle on ne répond pas. Est-ce qu'il y a des questions qui vous mettent particulièrement en colère?
Oui.
Par exemple?
Par exemple, si j'ai déjà expliqué un travail et que je demande à la personne de le refaire, mais elle va faire tout le contraire de ce que je lui ai demandé, alors qu'on a déjà travaillé là-dessus. Ou alors, si j'ai dit, par exemple, qu'on ne doit pas toucher à ça, mais quand je viens, la personne a quand même touché, bon, ça m'énerve.
Bon, docteur Marie-Claude Gavard, on voit une certaine autorité de la part d'Emmanuela. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, justement?
Alors, déjà, lorsque Emmanuela vous expliquait quelque chose à quelqu'un et qu'il ne l'a pas refait, peut-être pouvez-vous déjà vous poser la question, est-ce qu'il a bien compris le message? Et donc, vous savez que crier la deuxième fois, c'est le meilleur moyen d'inhiber la personne et de faire qu'elle va encore moins comprendre. Donc, au niveau stratégique, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Lorsqu'une personne vous désobéit, là, on voit que la colère qui est la résultante là de votre frustration de ne pas être écoutée, respectée, parce que vous devez y mettre du respect. Là, vous voyez, c'est important lorsque vous êtes en colère de voir le facteur déclenchant, parce que la colère est une émotion qui vient après une autre. Ça peut être l'injustice, l'humiliation, la peur, l'abandon, vous voyez, des tas de choses. Donc, vous avez intérêt à relier ça à ce qui a provoqué votre colère. Alors maintenant, si vous voulez vous débarrasser de cette attitude très difficile pour vous au niveau de la communication, moi, je peux vous conseiller ce qu'on appelle la communication non violente. Hein, c'est ce qu'on appelle la CNV. Communication non violente, que chacun peut appliquer très facilement en fait. Vous énoncez la situation. Par exemple, vous dites à votre collaborateur, tu vois, je t'avais dit de faire telle chose, tu ne l'as pas fait. Ça, c'est un fait. Deuxième étape, vous dites ce que ça provoque en vous. J'ai l'impression que quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Troisième étape, est-ce ce que tu veux me faire comprendre? Que tu ne veux pas écouter. Donc la personne souvent dit non, c'est pas ça. Quatrième étape de la communication non violente. Alors, comment faire pour que ça se passe mieux? Et vous voyez, lorsque je vous énonce ça, il n'y a pas du tout ni à hausser le ton, c'est au contraire à discuter en bonne intelligence d'adultes qui ont le même but, notamment au niveau du travail, et chacun peut ainsi s'exprimer. Et lorsque la personne entend que vous avez demandé quelque chose et qu'elle ne l'a pas fait, elle peut expliquer les choses. Et dans ce cas-là, votre colère n'existe pas parce que vous avez été entendu. Et l'autre aussi.
Emmanuela, est-ce que vous vous sentez prête à adopter ces conseils du docteur Marie-Claude Gavard, découper les mécanismes, parce que finalement, votre message, il passera tout autant et bien plus efficacement.
Oui. Oui, voilà, c'est ça.
Merci.
Non, je ferai le nécessaire parce que, bon, il faut mettre une très bonne ambiance dans son milieu de travail, donc...
C'est important. C'est important pour que les choses se passent bien. Merci beaucoup, Emmanuela, de cet appel de Libreville au Gabon. On va rejoindre le Sénégal, Dakar, avec Samia en ligne. Bonjour, Samia.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors, moi, dans ma famille, on est très émotif. On reste trop longtemps attaché à nos douleurs et nos frustrations. Et ça fait qu'on a du mal à construire des relations assez durables avec notre entourage, surtout quand c'est d'ordre affectif. Et moi, personnellement, je suis très sensible à la violence verbale, aux paroles. Et ça fait que quand je suis blessée sur ce plan-là, j'ai vraiment du mal à me dépasser et à rester correcte dorénavant avec la personne qui m'a blessée. Donc, ce que je souhaite, c'est de pouvoir dépasser mes émotions, ne pas rester emprisonnée dans cette douleur que je peux ressentir, parce que après, ça me donne l'impression de passer à côté de beaucoup de choses et de ne pas être heureuse, en fait.
Samia, vous dites dans ma famille, pourquoi vous avez remarqué la même chose chez vos parents ou chez vos frères et sœurs ?
Effectivement, chez mes parents, chez mes frères et sœurs, et même au-delà dans la grande famille, les gens sont un peu comme ça.
Docteur Marie-Claude. Docteur Marie-Claude Gavard, il y a des sentiments comme ça qui se partagent au sein d'une même famille, on répète les mêmes choses?
Ah oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est le milieu éducatif. Si des parents sont très émotifs, ils le montrent aux enfants que cette émotivité est une norme. Donc les enfants modélisent sur les parents. Et lorsque Samia parle de cette difficulté par rapport à des propos blessants, personne n'aime entendre des propos blessants à son égard. Ce qui me semble vraiment fondamental, c'est lorsque on subit l'agressivité de quelqu'un, de se demander si cette agressivité, même si elle pouvait être modulée et méritée, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait quelque chose qui n'allait pas, ou si l'autre est en train de nous exprimer son dysfonctionnement, parce qu'on a tous des dysfonctionnements, et l'agressivité de l'autre, ça peut être que l'autre est vraiment très mal en place dans sa tête et souffre de quelque chose, a un problème personnel, et par exemple Samia peut servir de défouloir à cette personne. Donc il est important de voir si c'est l'autre qui dysfonctionne ou si nous avons fait une erreur que nous allons nous empresser de corriger. Alors, à ce niveau-là, moi, je peux vous conseiller quelque chose, Samia, qui me semble vraiment très efficace. Vous imaginez que vous êtes derrière un bouclier en plexiglas transparent, vous êtes assise confortablement chez vous, et vous avez devant vous un grand bouclier qui vous protège de tout. Il est transparent, donc vous voyez les autres. Il y a trois petits trous en haut à droite qui laissent passer les sons. Et lorsque quelqu'un vous parle, vous analysez l'autre. C'est-à-dire que vous commencez à l'analyser. S'il est agressif, vous vous dites dans votre tête en riant, « Oh, moi, qu'est-ce qu'il a ? Non, mais qu'est-ce que c'est ? Non, mais il est ridicule, etc. » Et lorsque vous analysez l'autre, que vous avez votre petite voix amusante, vous ne pouvez plus recevoir en pleine figure ce qui est dit. C'est-à-dire que vous analysez que l'autre est agressif, vous visualisez toute l'agression qui glisse sur votre bouclier et qui va finir dans le caniveau, et ça vous permet d'être tranquille. Si quelque chose vous concerne réellement, vous l'avez entendu, mais vous n'avez pas cette émotivité en pleine figure.
Samia, des stratégies pour vous protéger, vous vous sentez prête à faire cela justement pour éviter tous ces ressentis négatifs?
Oui, je pense que je peux pouvoir le faire pour des tierces personnes, mais quand ça devient d'ordre affectif, c'est là que c'est plus difficile en fait.
Mais on est plus à vif.
Quand c'est affectif, quand j'ai des liens vraiment affectifs, c'est-à-dire quand je suis dans une relation amoureuse par exemple, J'ai du mal à le faire comme ça, à rire de ça et à prendre le bon et à rejeter le mauvais.
Donc, à prendre des distances. Merci beaucoup, Samia, de cet appel du Sénégal. On va se retrouver dans 3 minutes, hein, docteur Marie-Claude Gavard, juste après le journal, le point de l'actualité, toujours pour parler des émotions sur RFI.
Priorité santé. Caroline Paré.
On se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé, toujours consacrée aux émotions, en compagnie du docteur Marie-Claude Gavard, médecin psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste, auteur de « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» aux éditions Marabout. Docteur Marie-Claude Gavard, tout à l'heure, on avait cette auditrice, Samia, à Dakar, qui nous disait que quand il y avait de l'affect, elle avait du mal à contenir ses émotions. Elle se sentait prête à mettre sa colère de côté quand elle avait une certaine distance, mais quand ça la touchait au cœur, là, elle sentait qu'elle n'était pas capable de contenir ses émotions. Comment l'expliquer ?
Alors ça, c'est extrêmement courant. Et c'est pour ça que c'est tellement intéressant de rechercher la source. Et il semble que lorsque Samia parle ainsi, elle parle d'une peur de l'abandon. Donc, lorsqu'il y a un souci au niveau affectif, elle a un émotionnel qui l'envahit. Et en fait, elle a peur. Et souvent, c'est la peur de l'abandon. Hein, la peur de se retrouver seule et de ne plus être dans cette relation amoureuse.
Alors, on entend parfois dire, c'est d'ailleurs parfois une remarque sexiste, quand quelqu'un est excessivement émotif, c'est les hormones. On entend particulier pour les femmes enceintes. Quel est le lien justement entre ces hormones et ces émotions, docteur Gavard ?
Alors bon, il y a un lien, c'est certain. Par exemple, le baby blues du 2e ou 3e jour après l'accouchement, on sait qu'il y a un lien entre les hormones et l'émotionnel. Mais je crois que pour le respect de chaque individu, il faut voir quelles sont la source de ces vraies émotions en oubliant les hormones, parce que l'émotionnel c'est une réalité. Ça forme nos personnalités, la communication aux autres. Donc, oublions les hormones et allons à l'essentiel, c'est-à-dire que se passe-t-il ?
Quelqu'un de singulier, hein, on va pas mettre
sûr.
dans un. Et alors, comment expliquer, par exemple, que les gens rient d'un même élan, même si le rire c'est pas forcément une émotion, mais quand même c'est un sentiment de joie qui s'exprime, ou carrément qui se mettent à pleurer au cinéma, tout le monde sort son mouchoir en même temps en regardant un film.
Oui, parce qu'en fait, souvent il y a de la symbolique, et c'est une symbolique universelle. Hein. C'est la peur de l'abandon, c'est l'amour, c'est la joie, c'est symbolique. Et il faut voir, par exemple, les adultes qui pleurent devant un dessin animé. C'est donc il y a un Bambi qui va être abandonné. C'est-à-dire, on se projette dans notre enfance inconsciemment avec la peur d'être seul, de se retrouver seul, d'être abandonné, d'être orphelin, je ne sais quoi.
C'est aussi le savoir-faire du réalisateur de tirer ses cordes sensibles.
Ah mais complètement, complètement. Et c'est intéressant parce que ça touche notre inconscient et on pleure, on peut ne pas tout à fait comprendre pourquoi.
Est-ce qu'il y a des émotions contagieuses ?
Ah oui, le rire notamment, le rire. Et il y a d'ailleurs la rire thérapie maintenant qui s'est fait beaucoup.
On va éviter à l'antenne parce que ça va être difficile. Alors on va partir pour la République démocratique du Congo. Hein. On retrouve sur place, on retrouvera dans quelques minutes sur place le docteur Kamanga qui nous donnera sa vision justement des traitements, de l'approche qu'il a en consultation pour tout ce qui est émotion. Avant le Congo, on va partir pour le Sénégal. On retrouve à Dakar Moshé, un auditeur de RFI. Bonjour Moshé.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute.
Oui, moi j'ai vraiment un grand problème. Mon problème est que quand je suis énervé, alors je commence à casser tout ce qui est autour de moi. Tout ce qui est, d'habitude je cible tout ce qui est vitre, verre et je commence à taper dessus. Et du coup, je me blesse sur... J'ai des blessures sur le bras et je n'arrive pas à m'en contenir. Et même tous ceux qui sont autour de moi, je les pousse aussi à bout. Des fois, je les attaque, je me bagarre avec eux. En quelque sorte, je les pousse aussi à devenir contre moi. C'est vraiment là mon grand problème.
Ça vous cause beaucoup de tort. Quelles sont les circonstances, les situations, justement, qui vous mettent hors de vous ?
Oui, les situations qui me mettent hors de moi, c'est surtout du côté professionnel. Quand, en fait, je suis trop stressé, ou bien quand, en fait, mon patron, par exemple, me reproche des choses que j'ai pas faites, et alors là, ça me met hors de moi, franchement.
Ça veut dire que même dans le milieu professionnel, vous mettez à tout casser?
Même dans les milieux professionnels. Alors, du coup, je me retrouve des fois au chemin, je perds mon emploi et du coup, c'est trop compliqué pour moi, trop difficile.
Docteur Marie-Claude Gavard.
Alors, Moshé, on peut se demander si dans votre enfance, les adultes qui vous entouraient vous ont écoutés, ont pris soin de vous, si vous êtes senti compris. Parce que là, cette explosion de colère me fait tout à fait penser à un enfant, vous savez, qui jette son jouet par terre, qui casse tout, parce qu'il est extrêmement malheureux. Donc, ce manque de contrôle dans ce que vous faites, parce que vous dites quelquefois, c'est même lorsque vous n'avez pas fait quelque chose, donc que vous êtes dans votre tort. D'ailleurs, là, il y a une explosion émotionnelle, comme si vous ne pouviez pas supporter la critique d'une part, et d'autre part, que vous aviez peur qu'on ne vous respecte pas. J'ai l'impression que vous rejouez quelque chose de votre enfance avec une grande douleur morale. Alors, effectivement, vous avez intérêt à réfléchir à votre enfance, c'est certain, à pratiquer du sport, à faire peut-être de la méditation, ce serait une bonne chose pour vous. L'auto-hypnose, ce serait formidable pour vous, c'est-à-dire prévoir en amont une attitude lorsque vous savez dans le milieu professionnel qu'il peut se passer quelque chose de pénible. Et donc il y a beaucoup de petites méthodes qui pourraient vous aider, mais je crois essentiellement repenser à votre enfance. Je pense que vous avez dû vivre une frustration très importante et que vous continuez à porter cette frustration au quotidien alors qu'elle n'est plus d'actualité.
Moshé, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de vous dire le docteur Marie-Claude Gavard?
Oui, je pense très bien, parce qu'en fait, j'ai eu une enfance un peu terrible. Quand je vous dis un peu terrible, c'est je suis né dans une famille de 15 enfants. Donc, du coup, j'ai des aînés qui ne m'écoutent même pas, qui ne me respectent même pas, qui ne considèrent même pas mes paroles. Donc, à chaque fois que je suis nerveux, je me retire dans la chambre et je me mets à pleurer.
Et là, j'ai une petite question juste, Moshé. Est-ce que vous la sentez monter, la colère? Est-ce que vous sentez quelque chose en vous, qui comme une vague de chaleur qui monte en vous? Comment ça se passe quand ça arrive?
Et quand ça arrive, là, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai des problèmes de respiration, et c'est comme si ma respiration se bloque. Du coup, c'est ce qui se passe.
Oui, alors, puisque vous savez que ça se passe comme ça, dès que vous sentez que ça monte, faites de grandes respirations déjà. Hein. Il faut anticiper ces attitudes, aller faire un tour. Et lorsque vous dites que quand vous étiez petit, on ne vous écoutait pas, c'est là que vous avez appris à faire du bruit, que ce soit en cassant les choses, et c'est ce que vous répétez en ce moment. Or, au niveau de la communication non violente dont je parlais tout à l'heure, là, vous pourriez l'appliquer, dire ce qui vous dérange, et mais très calmement. Ça va vous demander un effort, mais ça, c'est tout à fait faisable, et vous allez voir comme votre vie va se simplifier.
Voilà, Moshé, pour ces conseils du docteur Gavard. Merci beaucoup de votre appel de Dakar au Sénégal et excellente journée. Je voudrais vous lire un message Facebook qu'on a reçu sur Priorité Santé. C'est Patricia qui est à Kinshasa. « Quand je suis en colère, je garde tout pour moi, je reste silencieuse et après, je sens une douleur. » C'est très parlant. Hein. Rétention de sentiments, silence, douleur. Comment on explique cela, docteur Gavard?
Alors, vous savez, c'est vraiment un phénomène qui allie le psychisme et le corps. Hein, la douleur est physique. Et en fait, Patricia, ce serait intéressant que vous disiez au fur et à mesure du traumatisme, de la situation désagréable, ce que vous ressentez. Hein. Vous dites ce que vous ressentez et vous demandez à l'autre si c'est ce qu'il avait l'intention de vous faire ressentir. Et plus vous allez vous expliquer, moins les gens agressifs vont avoir envie de vous agresser parce que c'est très désagréable pour l'autre de devoir expliquer son agression. Et plus vous allez prendre votre place beaucoup plus normalement et en vous autorisant la parole, vous allez vous sentir moins intimidé.
Voilà ce conseil pour Patricia de Kinshasa en République démocratique du Congo. On va le voir, hein, beaucoup d'auditeurs de Priorité Santé, on disait tout à l'heure, il y a énormément d'émotions, mais ce qui les dérange dans leur quotidien, c'est vraiment cette fameuse colère. C'est le cas aussi pour Mohamed, hein, qui est en ligne de Mauritanie, à Nouakchott. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour Caroline, et bonjour à toutes les auditeurs et auditrices de la Radio du Monde. Oui, je vous écoute, Mohamed.
Non, c'est nous qui vous écoutons. Expliquez-nous exactement ce qui se passe. Pourquoi vous nous appelez aujourd'hui, vous nous demandez conseil?
Oui, effectivement. Depuis, ça fait 2 à 3 ans que j'ai remarqué que dès que je me suis en colère, j'ai mal à me contrôler. Contrôler mes paroles, à contrôler la manière dont je parle aux autres. Je blesse beaucoup de gens autour de moi, notamment les plus proches, mes amis, mes parents, mes sœurs, et c'est comme ça.
Ça crée des désaccords. Ça crée des désaccords dans la famille. Est-ce que les autres personnes de votre famille, justement, vous le reprochent?
Oui, oui, effectivement. Celles qui me connaissent plus, oui, elles me comprennent.
Docteur Marie-Claude Gavard.
Alors, là, on parle de la colère et il est vraiment fondamental de raccrocher cette colère à un sentiment qui a provoqué cette colère.
En trouver la source.
Trouver la source. Si vous ne le faites pas, vous allez être en colère tout le temps. Donc, voir quel genre de situation vous blesse au point d'être en colère. Souvent, c'est parce qu'on n'est pas entendu, on n'est pas compris. Et la colère est une attitude qui est totalement aberrante puisqu'elle est contre-productive. Et en fait, ça va augmenter les problèmes. Donc, pouvoir expliquer ce qui se passe en disant, par exemple, « je ne me sens pas compris », vous permettrait de ne pas être en colère. Et si la personne n'entend pas, insister en disant « bon, je ne me sens pas compris, j'aimerais qu'on en discute », voyez. Et la communication non violente là-dessus est très importante. Ce que vous dites, c'est que vous pouvez vous mettre en colère avec les proches. En fait, c'est souvent ce que l'on s'autorise à faire, parce que les proches, on sait qu'a priori, leur affection nous est acquise. Mais bon, ce sont ceux qui nous supportent le plus, aussi bien avec nos qualités que nos défauts, donc c'est avec eux qu'on devrait être les plus sympas en principe. Mais vous voyez, comme on est capable de se cadrer dans un cadre professionnel, parce qu'il y a plus de risques. Donc, attention à la colère et allez voir par quoi elle est provoquée.
Mais docteur Marie-Claude Gavard, vous dites peut-être qu'en famille, on exprime cette colère, mais peut-être aussi parce que souvent, la famille est à l'origine et le berceau de cette colère.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, une fois de plus, que ce soit au niveau des proches ou professionnels, regardons qu'est-ce qui nous titille au point de déclencher la colère.
Voilà pour ces conseils, Mohamed, en ligne de Nouakchott. Merci beaucoup de cet appel. On va maintenant écouter Donald qui est au Sénégal, à Ziguinchor. Bonjour Donald. Donald, on vous écoute?
Oui, moi, quand je dis la vérité à quelqu'un, je me sens mal à l'aise. C'est comme si j'ai une honte après la manière dont je vais lui regarder après. C'est ça que j'ai un problème avec les gens.
Vous êtes trop cash, trop direct et ça vous crée des problèmes.
Oui, oui.
Trop de spontanéité, c'est possible ça, docteur Marie-Claude Gavard? On peut dire qu'on est maladroit?
Oui, tout à fait. Mais de toute façon, lorsqu'on a quelque chose à dire, il est très important de le dire et si possible, bon, sauf quand il y a vraiment du public peut-être, mais tout de suite. C'est-à-dire, ne laissons pas les rancœurs s'accumuler et l'autre a besoin de connaître notre mode d'emploi. Si nous nous taisons, il va pouvoir continuer à nous perturber, alors que si on avait expliqué ce qui ne nous allait pas, l'autre pourrait en prendre la mesure et avoir une communication plus simple. On a vraiment intérêt à dire ce qui nous dérange et ça, le dire sans agressivité.
Voilà donc pour ces conseils, Mohamed. Merci beaucoup de votre appel de Mauritanie. On va rejoindre la République démocratique du Congo. Juste pour nos auditeurs, cette petite précision. Depuis tout à l'heure, on essaye de joindre Kinshasa. Hein. On essaye de joindre le docteur Kamanga. Hélas, la ligne ne passe pas. Donc, on va devoir se priver de cette expertise parce que la ligne est totalement inaudible. On va néanmoins avoir un coup de téléphone avec la République démocratique du Congo, mais c'est un auditeur, hein, c'est Mike qui est à Lubumbashi. Bonjour Mike.
Oui, allô.
Bonjour.
Oui, je vous entends.
On vous écoute,
oui,
Mike. On vous écoute.
Oui, oui, je voulais parler aux invités parce que je viens de rompre avec une petite amie. Donc, on a vécu une relation amoureuse. Alors, le penser ne me quitte pas vraiment. J'ai un sentiment d'angoisse. Je ne sais pas comment faire.
Ça remonte alors, à combien de temps, cette rupture?
Ça remonte plus ou moins un mois et trois semaines.
Docteur Marie-Claude Gavard, la tristesse, hein, faire le deuil d'une relation, un mois et demi, Mike a envie de passer à autre chose. On peut comme ça contrôler sa tristesse, tout simplement?
Alors, c'est important de la comprendre. Parce que, avoir été, s'être séparé il y a un mois et demi, c'est extrêmement court, en fait. Hein. Ce n'est pas trop... gérer sa tristesse, c'est comprendre. Alors, est-ce que il a été humilié, si c'est sa petite amie qui a arrêté? Est-ce que ça l'a angoissé? Est-ce qu'il était dans la période de coup de foudre où tout semble merveilleux et on est dans l'irréalité? Donc là, il faudrait en savoir un petit peu plus. Mais la tristesse, faire son deuil, c'est un temps qui est nécessaire le plus souvent, qu'on doit tout à fait respecter, et il faudrait voir en quoi Mike est déçu. Hein, et souvent, c'est une blessure narcissique, c'est-à-dire qui augmente le manque de confiance en soi. Et parce qu'en fait, dans la réalité, il ne connaissait pas cette jeune femme il y a quelque temps, puisque c'est une relation récente, et il vivait avant correctement. Alors, attention à... Bon, moi, je crois que cette réflexion peut peut-être éviter une dépression aussi, en disant, bon, là, j'étais peut-être dans le coup de foudre, je ne la connaissais pas suffisamment, finalement, nous ne sommes pas compatibles, ce qui ne veut pas dire que Mike ne soit pas bien, c'est qu'il n'y a pas assez d'affinité, et donc c'est remettre les choses un petit peu à un niveau moins émotionnel, hein, c'est-à-dire plus de raisonnement, mais il y a un temps.
En même temps, dans l'amour, c'est pas toujours facile d'être raisonnable.
Ah non, c'est très difficile. Mais lorsqu'il y a une séparation, ne pas penser que c'est parce qu'on n'a pas assez de qualité. C'est parce qu'il n'y avait pas assez d'affinité.
Mike, est-ce que vous aviez eu d'autres ruptures avant cette séparation?
Si, j'ai eu d'autres ruptures, mais celle-ci, en tout cas, est un peu difficile à surmonter que les autres.
Celle-ci fait plus mal que les autres. Il y a quand même une répétition et peut-être que ça a ravivé aussi des douleurs du passé, docteur Gavard.
Oui, et il est tout à fait possible que Mike se pose des questions en disant « Bon, j'ai eu plusieurs ruptures, est-ce que finalement je vais réussir à être en couple ?» Donc ça peut stimuler une angoisse.
Merci beaucoup en tout cas Mike pour cet appel de Lubumbashi. On va prendre un dernier auditeur, c'est une auditrice, elle s'appelle Fadi, elle est en ligne d'Anières. Bonjour Fadi.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, en fait, je vous appelle parce que je suis quelqu'un de très émotive. Et en même temps, je suis colérique. Donc, j'ai les deux extrêmes, je ne comprends pas. Autant, je suis très sensible aussi. Donc, je ne comprends pas pourquoi, en même temps, je suis très émotive. Et puis, en même temps, je ne supporte pas certaines choses des gens.
Vous avez du mal à affronter quoi? Le refus, l'imprévu, c'est face à quel type de situation que justement vous vous énervez?
En fait, je m'énerve par exemple. Je suis quelqu'un qui supporte déjà beaucoup. C'est que je prends beaucoup. Je prends. Et quand je m'explose, ça devient autre chose.
Docteur Marie-Claude.
Ça dépend. Ça peut être quand on crie sur moi par exemple. Quand on n'est pas sincère avec moi. Et des choses que je ne supporte pas.
Docteur Marie-Claude Gavard, Fadi fait part d'une sorte de... Elle se contient, mais en même temps, quand elle dit... quand on me crie dessus, c'est finalement une réaction qui n'est pas si extraordinaire que ça, de se mettre en colère quand on ne nous respecte pas.
Oui, mais il n'y a pas besoin de colère, c'est ça. Effectivement, lorsque quelqu'un vous agresse, Fadi, peut-être dire, écoutez, vous pouvez expliquer ce qui vous arrive. Hein? C'est-à-dire que vous extrayez de la situation, vous dites « Pourquoi êtes-vous agressif comme cela ?» En général, les agressifs ne supportent pas qu'on les mette devant un miroir et après, ils vont aller agresser quelqu'un d'autre. Cela étant dit, lorsque vous vous dites « très douce et très colérique », moi, je me demande si exprimer les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent vous permettrait de ne pas être comme volcanique. Je me demande si c'est pas à force de vous retenir de parler que de temps en temps, ça explose. Donc, peut-être vous pourriez dire les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent et dire très calmement lorsque les choses vous déplaisent et expliquer pourquoi. C'est-à-dire donner votre mode d'emploi à l'autre.
Pour éviter justement une frustration qui pousse à exploser littéralement.
Ah c'est ça. Hein, ça fait penser à une éruption volcanique à force de frustration.
Voilà Fadi pour ces conseils du docteur Marie-Claude Gavard. Marie-Claude Gavard, on voit toute une série de littérature, de conseils, relaxation, méditation, bien-être, calme. C'est quoi? C'est un signe du temps? Aujourd'hui, les gens ont besoin d'être d'aller vers davantage de sérénité?
Alors, je ne sais pas si c'est un signe du temps. Je crois que maintenant, nous avons découvert des tas de méthodes. Notamment, toutes ces méthodes dont vous parlez, ce sont des méthodes qui ne sont pas médicamenteuses. Ce qui est une avancée absolument formidable. Le développement personnel est relativement récent. qu'on s'intéresse à ça, avec toutes ces méthodes qui sont très efficaces, comme l'auto-hypnose, l'hypnose, la méditation, mais le sport, la respiration.
Et qui sont conseillées, y compris par le corps médical, docteur Gavard.
Ah oui, c'est formidable. Notamment la méditation permet de diminuer les traitements antidépresseurs, aussi bien en quantité qu'en longueur de temps. Donc ce sont des méthodes extrêmement importantes et de bien-être au quotidien.
Justement, on peut quasiment parler de techniques, de phases, d'étapes, justement, pour contenir ses émotions. Chacun pourrait se faire, en fait, sur mesure, son petit mode d'emploi, je gère ma colère, par exemple.
Alors, moi, je ne suis pas pour le terme contenir ses émotions, parce que je trouve que les contenir risquent, comme dit Fadi, après, d'être dans l'explosion. C'est les réguler. Réguler ses émotions, voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Lorsqu'on est dépassé par ses émotions, surtout les relier à une cause que nous devons comprendre, que ce soit une cause de l'enfance ou récente, qui rappelle, par exemple, l'enfance, pour être beaucoup plus paisible.
Et une question en forme de conclusion, est-ce qu'il existe une géographie des émotions? Est-ce qu'on réagit de la même manière à New York, à Tokyo ou bien à Tombouctou?
Ah non, je ne pense pas du tout. Il y a un facteur culturel très important. Et en France d'ailleurs, on voit dans les grandes villes, par exemple Paris, on voit les Parisiens qui ont une réputation d'agressivité que l'on ne retrouve pas à 100 km de Paris. Donc il y a au niveau de la vie de chacun des facteurs de stress, d'émotion, de frustration et une façon de les exprimer ou non.
On parle aussi de beaucoup d'angoisse, l'actualité, les médias. Tout cela, ça peut générer des émotions négatives en même temps pour des populations.
Ah oui, tout à fait, complètement, absolument. Et donc, on a intérêt à chacun voir comment se faire du bien.
Merci beaucoup, très bon conseil, se faire du bien. Merci beaucoup docteur Marie-Claude Gavard d'avoir éclairé les auditeurs de Priorité Santé sur toutes leurs émotions. Je rappelle que vous êtes médecin, psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste à Paris, auteur de « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» publié chez Marabout. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète. Avec vous aujourd'hui, on va se poser une question sur la pertinence des suppléments de vitamines et de minéraux, justement pour bien se porter. Alors, est-ce que c'est nécessaire de prendre ces suppléments pour une bonne santé?
Alors, ça dépend vraiment de la population à laquelle on s'adresse. Si on commence par parler de la population de jeunes adolescents et d'adultes, on va dire, qui ont moins de 65 ans, normalement, c'est pas réellement nécessaire. Maintenant, si on parle de femmes enceintes, de bébés ou encore de personnes âgées, on pourra y revenir, ça peut être nécessaire. Alors, pourquoi on dit que pour les adolescents et les adultes, c'est pas forcément nécessaire? C'est parce qu'à cet âge-là, si les gens adoptent une alimentation équilibrée, avec tout ce qui va en termes de fruits et légumes et d'autres aliments, normalement, l'organisme va puiser dans cette alimentation tout ce qu'il a besoin pour faire face.
Et pourtant, il y a de plus en plus de ces suppléments qui sont vendus dans le commerce, justement, par exemple, pour améliorer la mémoire.
Oui, alors ça, c'est la grande mode. On a tous ces produits qui vont avoir différents noms, les suppléments pour mémoire, les nourrissez vos neurones ou encore les boosts mémoire, en faisant croire, un, que ça va améliorer la mémoire, mais des fois, la publicité peut aller plus loin avec vraiment un effet positif sur l'entretien du cerveau. Et en fait, on s'aperçoit quand on regarde la littérature que réellement, il n'y a pas réellement d'apport de révolution avec ces produits-là. Donc, il faut être très méfiant et de nouveau, comme on le dit souvent, aller plutôt vers une alimentation équilibrée que de penser qu'avec des suppléments comme ça, on va révolutionner sa mémoire et son cerveau.
Il y a aussi des compléments qui s'adressent à des populations particulières, compléments vitamines, minéraux pour les femmes enceintes, celles qui allaitent leur bébé ou aussi les enfants.
Oui, alors là on part sur des populations, comme on l'a dit au démarrage, peuvent avoir des besoins. Durant la grossesse, il est extrêmement important que la mère puisse fournir au bébé ce qu'il va avoir besoin pour une croissance vraiment optimale. Et là, on recommande deux supplémentations aujourd'hui vraiment importantes. La première, c'est le folate pour éviter les malformations du tube neural. Ça s'apprend pendant la grossesse. Et en faire aussi un pour que l'enfant ait suffisamment de réserves quand il va naître et pouvoir avoir ses réserves et une croissance normale. Et deux aussi, parce que la carence en fer chez la mère va entraîner une fatigue, une baisse de résistance aux infections et des risques d'accouchement prématuré avec tous les risques que ça a au niveau santé maternelle. Alors pendant la phase d'allaitement, on recommande les mêmes supplémentations. Et elles seront surtout nécessaires au démarrage de l'allaitement pour reconstituer les réserves de la maman aussi. Il ne faut pas oublier que la maman doit avoir des bonnes réserves. Et enfin, chez l'enfant, on distingue, j'allais dire, deux phases. La première, lorsque l'enfant est allaité, il peut y avoir, suivant où vit l'enfant, c'est ça qui est important, des carences en vitamine D, puisqu'il faut pour la synthétiser une exposition au soleil. Et que si on est dans des zones où il y a un soleil très très fort, on a tendance à pas vouloir trop exposer les enfants pour les risques de cancer. Mais là, c'est pas une supplémentation systématique, va vraiment falloir regarder la situation. Et au moment du sevrage, la deuxième chose qui est très importante, il faut tout de suite diversifier pour éviter là aussi une carence qui est très très présente, notamment dans les pays en développement, qui est la carence en vitamine A. Et si jamais l'alimentation est pas suffisamment diversifiée, là il faudra supplémenter pour éviter la cécité, puisqu'on sait aujourd'hui que beaucoup d'enfants dans les pays en développement sont aveugles à cause d'une carence en vitamine A.
Et puis, autre population visée, là, les personnes âgées, des compléments, justement, en vitamines et en minéraux.
Alors, avec l'âge, les personnes âgées peuvent développer des perturbations du système digestif qui peuvent entraîner une moins bonne absorption de certaines vitamines et minéraux. Donc, on recommande une supplémentation en vitamine B12, pour leur rôle dans la formation des globules rouges et dans le fonctionnement du système nerveux. Et quelque chose que beaucoup de gens savent, la supplémentation en calcium et en vitamine D pour le rôle central qu'ils vont avoir dans le maintien de la structure osseuse des personnes âgées, puisqu'on sait qu'il y a un risque très important sur les os chez les personnes âgées.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et que vous dirigez l'ONG Santé Diabète. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique votre émission. Ophélie Lassène, Didier Bleu, Sophia Bédard, Adrien Gentil aujourd'hui. Demain, on va parler de la goutte. Si vous avez une question, si vous voulez témoigner, le numéro de l'émission, c'est le 33 84 22 75 75. Et pour nous réécouter, le site RFI.fr, la rubrique émission. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sono Assurance qui assure votre retraite et vous invite à la préparer efficacement dès aujourd'hui. Sono Assurance, notre métier, l'assurance.